l'heure de notre rendez-vous avec Franck Ferrand et nous abordons aujourd'hui une nouvelle région et de nouvelles merveilles. Bonjour Franck.
Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Et oui, nous partons aujourd'hui pour de nouveaux cieux. Nous allons essayer de découvrir une région qui est chère aux amateurs d'histoire et de passé chargé, aux gens qui, les gens un peu dans mon genre, qui ont tendance à s'intéresser au moins autant au voyage dans le temps qu'à celui dans l'espace. Voilà une région hérissée de champs de bataille et de sites industriels pionniers, certes, mais aussi une région constituée de terres riches, de paysages préservés, dont témoigne d'ailleurs le parc naturel régional. Pays de la Mirabelle et des Brimbelles. Les Brimbelles, ce sont les myrtilles dans le coin là-bas. Pays du fer, du sel, nous allons en parler longuement. Pays du cristal, patrie de Barès, de Lyautey, de Ferry, de Poincaré. Entre autres, bref, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Nous allons aujourd'hui, si vous le voulez bien, passer par la Lorraine. Alors demain, nous essaierons d'envisager toute la partie occidentale de la Lorraine et puis aussi nous remonterons vers le nord. Bref, nous parcourrons une route qui s'étend à peu près entre Bar-le-Duc et Metz. Aujourd'hui, nous nous attaquons au centre de la région, à sa capitale, à Nancy, qui se trouve donc un peu plus au sud. Et nous allons partir même encore un tout petit peu plus au sud du château d'Arouet, qui est une ancienne forteresse du XVIe siècle. On voit encore la structure de cette forteresse. Il y a notamment toujours des tours d'angle avec des poivrières assez spectaculaires. Mais c'est une maison 18e que nous allons aborder. Et quelle maison 18e ? Le château d'Arouet, qui appartient au prince de Beauvaucran, qui est un peu leur fief, qui est aussi leur fierté. Ce château d'Arouet, il a été reconstruit au tout début du XVIIIe siècle, en 1720, par Germain Boffrand. Boffrand qui était le grand architecte classique de l'époque et qui d'ailleurs travaillera quelque temps plus tard pour le grand Stanislas Leszczynski à Nancy et dans ses différentes résidences. Le château est particulièrement beau et soigné. Je vous ai parlé des Beauvaucran, ça vous donne une idée du style de la maison. C'est ce qu'on appelait autrefois et qu'on a tendance à oublier un peu aujourd'hui, ce qu'on appelait le grand genre. Vous savez, tout ça est chic, absolument somptueux. Les différents salons sont meublés à la manière de la Restauration, dans le goût Louis XVIII, Charles X. C'est un mobilier d'ailleurs d'une grande richesse qui provient en grande partie du château de Saint-Ouen. Et le château est aujourd'hui, non seulement les intérieurs sont très riches, sont très harmonieux, non seulement les extérieurs sont somptueux, mais il est l'un des témoignages du grand art local qu'a été la ferronnerie à l'époque rocaille. Et les grilles, que ce soit les grilles de la cour d'honneur, que ce soit l'incroyable rambarde du grand escalier, tout ça est signé du plus grand ferronnier de l'époque, en l'occurrence Jean Lamour. Ce Jean Lamour, il me sert un peu d'introduction ou d'introducteur, puisque c'est lui que nous allons retrouver, donc à une quinzaine de kilomètres plus au nord. C'est lui que nous allons retrouver comme ornementaliste des places de la carrière et Stanislas à Nancy. Alors, cette place Stanislas, elle est mondialement connue, c'est une des merveilles de France, et plutôt que de vous la décrire, vous l'avez sans doute beaucoup vu, on va en dire un mot tout à l'heure, mais j'aimerais surtout vous parler des circonstances de sa création. Et l'on ne peut pas parler de Nancy et de la place Stanislas sans évoquer tout simplement l'existence de celui qui lui a donné son nom, à savoir Stanislas Leszczynski, qui était le roi déchu de Pologne. Alors, j'ai eu l'occasion à ce micro de raconter la vie de Stanislas. Déjà, là, je vais vous la faire courte. Simplement, imaginez quelqu'un qui... Il était un jeune noble palatin de Poznanie dans les années 1704-1705. Il était marié lui-même à un magnat du cru. Il a réussi à séduire la diète, c'est-à-dire le parlement de Varsovie, parce qu'il avait une belle prestance, il avait une certaine verve, et le voilà élu roi de Pologne. Le problème, c'est que les Russes ne le voient pas du tout de cet œil-là. Les Russes, eux, soutiennent Auguste de Saxe, hein, Auguste le Fort. Ils ne veulent pas entendre parler de ce candidat Leszczynski. Et malgré le soutien du roi de Suède, Charles XII, eh bien Stanislas va devoir partir en exil. Alors, il va se battre aux côtés de Charles XII contre les Turcs. Il est d'ailleurs retenu 2 ans en captivité, après quoi on lui donne en remerciement la principauté des Deux Ponts. Et puis, à la mort de Charles XII, il se retrouve sans rien et il est réduit à demander l'hospitalité du régent de France, du régent Philippe d'Orléans, qu'il l'installe donc dans le nord de l'Alsace, à Wissembourg, dont nous avons parlé au tout début de ce périple estival. Et puis, eh bien, les années passent pour Stanislas Leszczynski et pour sa famille. On vit chichement à Wissembourg, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis voilà que d'un seul coup, en 1725, alors qu'il avait demandé pour sa fille la main du Premier ministre, le duc de Bourbon, il n'avait pas froid aux yeux, Stanislas Leszczynski, un courrier arrive de Versailles. Il est lui-même en train d'effectuer sa petite promenade quotidienne dans son carrosse. Le courrier tend la main par la fenêtre du carrosse. Stanislas lit la lettre et il découvre que la main de sa fille vient d'être acceptée non pas pour le Premier ministre, pour le duc de Bourbon, mais pour le roi de France lui-même, Louis XV. Et voilà donc que la petite Leszczynska, Maria Leszczynska, va devenir reine de France. Et lui, le bon Stanislas, le gendre du roi de France. Alors, en 1733, son rival heureux, Auguste de Saxe, vient à mourir, et Stanislas brigue de nouveau l'élection à la couronne de Pologne. J'aurais dû vous dire tout à l'heure que c'était une couronne élective, et que c'était donc les grands électeurs de Pologne qui élisait leur roi. Alors, il y a eu toute une histoire, là. C'est assez amusant parce que Stanislas a réussi à regagner Bride abattue par les terres. Il a regagné Varsovie, tandis qu'un de ses sosies s'embarquait tranquillement à Cherbourg pour calmer les esprits et pour tromper son monde. Finalement, par la surprise, par la faconde, une nouvelle fois, le voilà élu roi de Pologne. C'est donc la deuxième fois. On est en 1733, et pour la deuxième fois, les Russes le mettent à la porte. Il doit s'enfuir de nuit en passant par des marais, en se déguisant en paysan. C'est une aventure très rocambolesque, et qui se conclut néanmoins en 1736 par un grand accord diplomatique mené sous l'égide de la couronne de France, et qui fait que le roi déchu Stanislas, avec le titre de roi et le prédicat de majesté, devient duc de Lorraine. Avec cette condition, c'est qu'à la mort de Stanislas, la Lorraine reviendra à la couronne de France. Pour Louis XV, c'est une assez bonne affaire. À partir de là, Stanislas n'aura plus de cesse que d'enrichir, d'embellir, de magnifier ce grand duché dont il a pris la tête, et notamment de le doter d'une capitale digne de ce nom. La capitale en question, ce sera Nancy. Et au cœur de cette ville de Nancy, reconstruite entièrement sur le mode baroque, au cœur de cette espèce de ville idéale d'un XVIIIe siècle qui s'y entendait en matière d'urbanisme, on bâtit une place. La place est commencée en mars 1752, elle sera inaugurée en novembre 1755. À l'époque, Stanislas n'est plus jeune, hein, il est quasiment octogénaire. Il n'empêche, c'est la fameuse place Stanislas, avec ses ferronneries de Jean Lamour, avec tous ses bâtiments magnifiques. Elle est aujourd'hui, on la considère, les Nancyens l'appellent la place Stan. Cette place Stan, elle est considérée sans doute comme une des plus belles places du monde. On vient de fêter son 250e anniversaire, naturellement, en 2005. Elle est inscrite depuis 1983 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et elle a été réhabilitée, nettoyée, vidée de toute circulation pour offrir son meilleur visage aux promeneurs qui maintenant viennent souvent de très loin pour la contempler. Et d'ailleurs, il y a un site qui est assez amusant, qu'il faut aller voir. Et ça s'appelle la place visible en direct, et il y a une webcam qui est installée sur le toit de l'hôtel de ville de Nancy, et ça vous permet d'assister en direct à la circulation piétonnière, je précise, sur la plus belle place du monde.
Les plus grandes championnes de golf ont rendez-vous à l'Evian Masters du 26 au 29 juillet à Evian, Haute-Savoie. Venez partager les meilleurs moments d'un des plus prestigieux tournois féminins du monde. L'Evian Masters, entre sport de très haut niveau, performance et glamour. Avec Rolex, UBS, Lacoste et Evian.
J'adore ma mère. Elle est fantastique, ma mère. Elle est belle, ma mère. Et puis, on n'a qu'une mère. Hein? Mais alors, s'il y a un truc que je ne supporte pas et qui me rend dingue, c'est qu'on lui lance des canettes, des bidons et des mégots à ma mère. Hein? Parce qu'après, ma mère, elle est toute sale. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à garder ma mère propre.
Engagez-vous, rejoignez Surfrider Foundation. Toutes les infos sur surfrider.fr.
Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour ma mère. Hein?
Plus la planète se réchauffait, plus le froid résistait. Les réfrigérateurs évoluaient sans cesse. Développaient la super-isolation, le froid ventilé, la conservation sous vide.
leur capacité de stockage augmentait, leur consommation d'énergie diminuait.
Aujourd'hui, ces réfrigérateurs du futur sont déjà chez Darty. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, offrez-vous ce que le froid a de plus frais à moindre frais. Darty.
16h, palace. Calme-toi. Je traverse le bar avec cette blonde si fine. Son reflet d'or. Mais 60 secondes plus tard, je dois l'abandonner. 4 mots suffisent.
Votre 1664 est servi.
Et je la délivre.
1664, le grand numéro.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
C'est à Nancy que nous avions interrompu notre route, Franck Ferrand.
À Nancy, alors, je vous parle évidemment du Nancy du 18e, de cette ville des Lumières, qui d'ailleurs est aujourd'hui complètement consacrée à cette belle période, à ce beau chapitre de son histoire. Mais il ne faudrait pas en oublier pour autant le Palais Ducal, qui est beaucoup plus ancien, qui est du Moyen-Âge, du 13e, avec sa très belle porte pré-Renaissance. Et puis les musées locaux, le musée historique Lorrain, où vous trouverez notamment des gravures de cette espèce de personnage incroyable qui était Jacques Callot, vous savez, qui dessinait notamment, qui dessinait avec beaucoup de réalisme les misères de son temps. Et puis le musée, évidemment, de Nancy, le musée de l'école de Nancy, où les amateurs d'art nouveau, où les amateurs de dômes, de galets, de majorelles s'en mettront tout simplement plein les yeux. Il faudrait parler de beaucoup de choses. Il faudrait vous parler évidemment du couvent des Cordeliers avec son église qui a été conçue sur le modèle de la chapelle des Médicis à Florence et qui était un peu la nécropole des ducs de Lorraine, le Saint-Denis des ducs de Lorraine, comme on dit. Il faut y voir notamment le gisant de Philippa de Gueldre par Ligier Richier, encore un grand réaliste, comme s'il y avait en Lorraine quelque chose, une affinité essentielle avec un réalisme qu'on retrouve d'ailleurs jusque dans les créations de l'art nouveau, tout simplement. À la sortie de Nancy, quand vous allez en direction de Lunéville, vous avez également la stupéfiante église 18e, Notre-Dame de Bon Secours, où se trouve le tombeau de Stanislas. Et il y a d'ailleurs à côté du tombeau de Stanislas Leszczynski, dont je viens à très grande vitesse de vous raconter la vie, vous avez le cœur de sa fille et néanmoins reine de France, Marie Leszczynska. Avant de quitter Nancy, vous aurez eu soin de goûter à la bergamote, s'il vous plaît, qui est une sucrerie particulièrement délicieuse, et puis aux petits macarons, des macarons qui nous datent de la Révolution, à une époque où les nonnes qui avaient été chassées de leur couvent local se sont installées pour fabriquer ces petites pâtisseries absolument délicieuses et assez inimitables, pour tout vous dire. Nous allons par Saint-Nicolas-de-Port. Saint-Nicolas-de-Port, c'était l'ancienne, c'est la basilique Saint-Nicolas. C'est là qu'était exposée une phalange du saint en provenance de Bari. La ville a été très prospère grâce au pèlerinage multiple à Saint-Nicolas jusqu'au premier tiers du XVIIe siècle. Et puis, elle a été anéantie pendant la guerre de 30 ans et on peut dire qu'elle ne s'en est jamais véritablement relevée. Et n'empêche, Saint-Nicolas est demeuré le patron de la province, et vous savez que tous les 6 décembre, les enfants attendent Saint-Nicolas comme ceux d'autres régions attendent 3 semaines plus tard à l'arrivée du Père Noël, bien entendu. Nous voilà donc aux portes de Lunéville. Alors vous allez dire, c'est pas possible, revoilà Franck Ferrand à Lunéville, il nous en a déjà parlé au moins 10 fois. C'est vrai que c'est un endroit que j'aime beaucoup et que je suis d'assez près, comme vous avez pu le constater, les travaux de restauration qui s'effectuent dans le château de Lunéville et dans ce parc des Bosquets absolument extraordinaire. C'est un chantier colossal, vous savez que c'est le plus grand chantier patrimonial d'Europe qui est en cours à Lunéville, avec plus de 100 millions d'euros d'investissement sur de nombreuses années. Donc c'est quelque chose de colossal. Vous savez, Lunéville du temps de Stanislas, c'était devenu une sorte de capitale culturelle. C'est Voltaire lui-même qui disait « On ne croyait presque pas avoir changé de lieu quand on passait de Versailles à Lunéville ». En l'occurrence, Si je vous amène à Lunéville, c'est pour vous parler d'un trésor beaucoup plus caché, infiniment moins connu et pourtant qui mérite d'être connu autant que le château, les jardins ou le fameux grand manège du XVIIIe siècle. C'est en l'occurrence une église récente, enfin quand je dis récente, elle date du début du siècle, des années 1911-1912, et cette église, elle vient de faire l'objet d'une campagne de restauration menée par Catherine Guyon, qui est non seulement lunévilloise, mais se trouve être également maître de conférence à l'université de Nancy 2. Or, nous l'avons au téléphone. Bonjour Catherine Guyon.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci d'être arrivé. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé cette émission, je ne savais même pas que nous nous parlerions. Je suis ravi que vous puissiez être là avec nous. Alors, cette église, je disais qu'elle a été construite après la loi de séparation de 1905, donc elle n'appartient pas à la commune.
Non, elle appartient effectivement aux paroissiens sous l'égide de l'association diocésaine, ce qui effectivement posait problème au moment de la restauration de la grande verrière du transept.
Mmh, parce que dont nous allons parler à l'instant. Oui.
Effectivement, un ensemble de vitraux absolument exceptionnel, de près 400 mètres carrés.
Le problème, c'est que ces vitraux, ils ont subi, on va dire de quoi il s'agit et ce qu'ils représentent dans un instant, mais ils ont subi mauvaise fortune au moment de la fameuse grande tempête du lendemain de Noël, hein, du 26 décembre 99. Encore oui. Un endroit maltraité par ces vents maudits.
Une tempête qui a été dramatique, effectivement, dans le Lunévillois, et qui a en particulier endommagé cette grande verrière de 35 mètres carrés. Mmh. Les vitraux, donc les autres vitraux n'ont pas subi de dommages, mais celui-ci a été vraiment très, très abîmé. Les meneaux étaient cassés, il y avait une courbure du verre atteignant 35 cm, mmh. Et l'ensemble risquait de s'effondrer.
C'est incroyable, oui, c'est énorme.
En entraînant une partie de la voûte. Oui, c'est
alors,
impressionnant.
Il y a en tout 28 vitraux qui ont été réalisés donc pendant la première moitié du XXe siècle par les maîtres de Nancy, Benoît et Jeannin, c'est bien ça?
Tout à fait,
qui sont tout à fait dans le mouvement Art Nouveau École de Nancy, dont
absolument,
on parlait à l'instant.
Oui.
Et ces 28 verrières, dont une extraordinaire qui représente Sainte Jeanne d'Arc recevant les voix, hein, c'est bien ça, toutes ces verrières représentent l'histoire de Jeanne d'Arc.
Ah oui, c'est un véritable livre d'images sur Jeanne d'Arc. Oui.
Or, c'est la première fois que l'on consacrait une église à Jeanne d'Arc qui n'était pas encore sainte, il faut le dire.
Et il y a même fallu une dispense du pape à l'époque, effectivement, parce que le droit canon en 1910 ne permettait pas de donner le titre d'une église à un bienheureux, une bienheureuse, il fallait un saint ou une sainte. Or, Jeanne d'Arc a été béatifiée en 1909 et canonisée seulement en 1920.
Alors, racontez-nous ces travaux en deux mots, ça a consisté à quoi faire?
Alors, les travaux, effectivement, ont pu être réalisés parce que déjà il y a eu des démarches pour inscrire l'église à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce qui a permis donc de bénéficier de subventions publiques. Il a fallu donc monter tout un dossier de restauration, jumelé à des manifestations, expositions, visites guidées, concerts, spectacles sur la vie de Jeanne d'Arc avec des jeunes, qui ont permis d'avoir un petit peu d'argent. Et on a donc aussi eu la chance d'avoir le concours du Pèlerin Magazine, un patrimoine pour demain.
Ça, c'est un concours auquel nous donnons systématiquement la plus large publicité, parce que je trouve que c'est remarquable.
Absolument.
Et c'est très bien qu'un magazine, en l'occurrence Pèlerin Magazine, se consacre comme ça à l'aide aux grands projets de restauration. Alors, pour la plupart, ce sont des monuments du patrimoine religieux, mais pas exclusivement d'ailleurs. Et chaque année, on décerne un certain nombre de prix. Et vous avez eu le prix en 2004.
En avril 2004, effectivement, un prix, l'un des 15 prix octroyés, de 5000 euros, qui constituait une aide financière appréciable et un encouragement pour tous ceux qui s'étaient mobilisés. Alors, les travaux ont pu commencer, avaient commencé en fait à l'automne 2003, et donc ils ont pu être heureusement terminés. Ce prix nous a bien aidés. Alors, travaux qui ont été donc organisés sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France,
oui,
en accord
sûr,
avec la commission d'art sacré. Et donc, il a consisté en un démontage complet de la verrière. Il y avait 59 plaques de verre qui ont été démontées soigneusement. Donc,
des plaques de verre qui sont d'ailleurs souvent dessinées, enfin plutôt peintes à l'acide. Hein, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est, la restauration a permis de découvrir les techniques de la réalisation de cette verrière, c'est-à-dire des superpositions de couches de verre, de la gravure à l'acide, du jaune d'argent et l'emploi de verres très particuliers. On en a nombré jusqu'à 11 essences de verres différentes et dont la plupart ne sont plus réalisées aujourd'hui.
Et ce qu'il y a de fascinant dans ces verrières de Sainte-Jeanne d'Arc de Lunéville, c'est qu'en fait, on a des scènes qui sont quasiment historiques, c'est-à-dire que non seulement les costumes, mais les décors, les scènes même qui sont représentées, s'inspirent directement d'une démarche historiciste, et notamment appuyée sur les procès notamment le procès de réhabilitation de Jeanne.
Voilà, dont on fait cette année justement le 50e anniversaire, et qui a servi de base à la réalisation des scènes. Et effectivement, les Verriers s'étaient basés sur les conseils d'historiens, de conservateurs du patrimoine de l'époque, de conservateurs de musées, pour savoir comment réaliser telle et telle scène, tel élément de costume, de mobilier, de décor. Donc il y a vraiment un souci historique très, très appuyé, et donc vraiment un panorama très intéressant, reflétant un petit peu le monde du 15e siècle où évoluait Jeanne d'Arc.
Écoutez, à ce stade de l'entretien, généralement, Catherine Guyon, je dis merci d'avoir participé. Aujourd'hui, je vous dis en plus bravo, parce qu'il faut des gens comme vous et il n'y en aura jamais assez pour sauver toutes ces merveilles de notre patrimoine.
Sacré géranium, tu sens bon la terre, toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez toute bon, vous êtes toute belle, mesdamoiselles. La 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 la. Est-ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins? Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent de fleurettes, c'est vrai qu'il est seul ce lapin. Je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. La 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 la. Est-ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins? Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. La 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 la.
Géranium, c'était Thomas Fersen, et avec vous, Franck Ferrand, nous repartons tout de suite pour la Lorraine.
Alors, j'ai peut-être été un petit peu long sur cette église Sainte-Jeanne d'Arc de Lunéville, mais en même temps, je me dis que lorsque des gens se démènent et se mobilisent pour essayer non seulement de sauver, mais là littéralement de faire briller un patrimoine ou un élément de patrimoine, il faut savoir leur rendre hommage et les épauler en quelque sorte. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant dans la suite de ce petit parcours. Nous avons pris entre-temps la départementale 914, nous remontons par Valais, par Aracourt, et nous voilà donc à Marsal. Marsal, qui est une ancienne cité minière, mais attention, pas n'importe quelle mine. Les mines dont nous parlons maintenant sont des mines de sel. Vous savez que la moitié, même plus de la moitié de la production de sel gemme, c'est-à-dire de sel de terre en France, provient de la région Lorraine. Et en l'occurrence, ici, dans cette région, dans ce coin de Marsal, on exploite le sel de terre depuis très longtemps, en fait depuis la préhistoire. Pour nous en parler très savamment, nous avons en ligne Michel Remillon, qui est président de l'Amicale du Musée du Sel. Bonjour Michel Remillon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Expliquez-nous depuis quand on exploite le sel dans cette région. D'abord, peut-être, ce sel, il se trouve dans la terre, il se trouve profondément enfoui?
Oui, alors effectivement, c'est donc ce qu'on appelle le gisement salifère lorrain, qui est donc d'origine marine. Au moment où la mer était présente en Lorraine et en France d'ailleurs, une période qu'on appelle le Trias, il y a 250 millions d'années.
Oui, c'est extrêmement ancien. Nous sommes là sur des aires géologiques qui dépassent nos pauvres petits esprits d'historien.
Voilà, absolument. Okay, voilà. Et donc, ce gisement salifère se trouve à Marsal, à 44 mètres exactement, et provoque un phénomène tout à fait particulier, qui est une remontée de saumure naturelle. Mmh. Et donc, cette saumure naturelle a été exploitée, effectivement, dès la protohistoire, mais jamais sous forme de mine à Marsal directement.
Alors voilà, c'est ça. Alors, en fait,
mines sont exploitées, elles, dans la région de Varangéville, c'est-à-dire un petit peu au sud de Nancy.
Oui, c'est ça, un petit peu plus, oui, c'est ça, une 20, combien, 25, 30 kilomètres de là, à peu près.
Voilà, c'est ça.
Alors, donc, cette saumure dont vous parlez, c'est de l'eau extrêmement salée, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça, et qui peut titrer entre 15 et 90 grammes par litre. Et donc, il y a donc une saumure naturelle qui remonte. Finalement, ce sont les nappes phréatiques qui lèchent le rocher de sel, hein, ou le sel gemme. Et au hasard de failles dans la vallée, vont remonter, alimenter ce qu'on appelle des mares salées.
Alors comment est-ce qu'on les exploite, ces mares?
Alors ces mares ont été exploitées dès la protohistoire. Hein. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une étude par le musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Oui. Probablement à la fin du Paléolithique ou au début du Néolithique, eh bien l'homme ayant besoin de sel dans sa vie quotidienne pour... Oui. Sa consommation personnelle, mais...
Vous êtes en train de nous dire que les hommes préhistoriques salaient déjà leurs aliments?
Absolument, à partir du néolithique, c'est sûr. Oui. Et donc, utiliser également le sel pour conserver les aliments.
Bien sûr.
Hein, c'était le seul moyen. Alors donc, ils ont développé une technique tout à fait particulière, à une période où on ne connaissait naturellement pas le fer. Ils ont imaginé de confectionner des appareils en terre cuite, donc ce qu'on appelle le briquetage, qui correspondent à des bâtonnets et à des cuvettes remplies de saumure qui étaient chauffées donc par-dessous dans des foyers, et on récupérait ce qu'on appelle des pains de sel.
Alors on a utilisé cette technique à peu près jusqu'à quelle époque?
Alors on l'a utilisée d'une manière certaine jusqu'à la période romaine.
Oui.
Et à la période romaine, on va petit à petit substituer le briquetage donc par la technique de la poêle à sel, qui est encore utilisée dans de nombreux pays en voie de développement aujourd'hui.
Alors c'est quoi cette technique de la poêle à sel? Ça fonctionne de quelle manière?
Eh bien, c'est tout simplement de grandes poêles qui peuvent faire 5-6 mètres de longueur sur 3 ou 4 mètres de largeur.
Oui, c'est ça. En fait, ce sont comme des... Ça fait comme des grandes plaques à chauffer.
Voilà,
en fait,
hein, exactement, avec un foyer continu par-dessous. Mm-hmm. Et donc on recharge continuellement la saumure jusqu'au moment où on obtient la cristallisation du sel.
Et ça a été en activité jusqu'à quand dans votre région?
Dans notre région, la dernière saline en activité, eh bien, c'était Dieuze en 1973.
Alors Dieuze, ça se trouve tout près de là, hein, c'est sur la même route dont je parlais d'ailleurs, c'est
absolument
à quelques kilomètres, hein, simplement.
Absolument, et d'ailleurs à Dieuze, vous avez les anciennes salines royales, hein, qui ont été en activité donc très longtemps, hein, depuis le Moyen-Âge. Jusque 1973.
Ce qui veut dire qu'en fait, la Lorraine fournissait déjà beaucoup de sel. À quelle destination est-ce que vous en exportiez autrefois?
Oui. Alors le sel, c'était évidemment une source de profit, mais c'était également une source de diplomatie, hein, qui permettait de s'allier tel ou tel...
Oui, c'était une monnaie d'échange, en fait, on peut dire ça. Oui.
Et d'ailleurs, le mot salaire, hein, vient
voilà,
de salarium, hein, hein, qui était donc au départ une indemnité qui était donnée aux légionnaires romains en sel.
Bien sûr, et on connaît le poids et le rôle qu'a joué l'impôt sur le sel, la gabelle, dans l'histoire de l'Ancien Régime.
Qui a fonctionné jusqu'à la Révolution française.
Absolument, oui.
Et même au-delà. Et donc, le sel était exporté parfois jusqu'aux Pays-Bas.
Ah oui, en effet.
Jusque dans le Bade-Wurtemberg, également beaucoup sur la Savoie. Et puis évidemment, toutes les régions aux alentours, jusqu'en Bourgogne.
Et il y avait des fortunes salines, si je puis dire, qui se sont constituées. Il y a eu des familles qui se sont enrichies sur ce commerce et sur cette exploitation du sel lorrain.
Alors beaucoup au début du Moyen-Âge. Et puis après, petit à petit, eh bien, c'est l'Église qui s'est appropriée une grande partie des salines. Donc, évidemment, cette richesse excité des convoitises, et ce sont les ducs de Lorraine et puis le roi de France après qui est venu finalement prendre tout ça, quoi.
Il y a donc comme ça toute une archéologie du pouvoir qui
peut se
reconstituer.
Exactement, le pouvoir régalien qui tourne autour.
Alors,
du sel.
Alors, pourquoi une amicale du musée du sel? Depuis quand existe-t-il ce musée et quels sont vos objectifs?
Alors ce musée a été ouvert en 1973, hein, sur une initiative locale. Mm-hmm. Et a été donc géré pendant 30 ans.
Donc vous avez pris le relais de l'activité d'exploitation en quelque sorte, hein.
Disons au moins la mémoire.
La mémoire, oui, c'est ça.
Ah, c'est ça.
On n'a pas voulu laisser ça se perdre, en fait.
Voilà, en li- liaison avec les industriels du sel lorrain. On a donc monté ce musée qui a été géré pendant 30 ans par une association de bénévoles. Et donc au 1er janvier 2004, le département de la Moselle a décidé de reprendre à son compte la gestion donc du musée, qui est donc aujourd'hui un musée départemental.
Alors, j'ai commis tout à l'heure une bévue en parlant de centres miniers. En fait, vous nous avez expliqué que ce ne sont pas vraiment des mines. Est-ce que dans votre musée, vous évoquez néanmoins les mines qui sont là, pas si loin?
Oui. Oui, absolument, d'autant plus qu'on est en relation au niveau de la muséographie avec les industriels du sel de la vallée de la Meurthe.
En fait, ce sel, aujourd'hui, il n'est quasiment plus exploité nulle part.
Si, justement, dans la région de Varangéville, sous forme de mines, hein, oui, pour alimenter l'industrie du sel.
C'est ça.
En particulier la fabrication du carbonate de soude, et puis donc tous les dérivés du chlore et de la soude.
C'est-à-dire que là, on est très loin du sel de table, mais on se rapproche de tous les savoir-faire industriels locaux, finalement.
Voilà, c'est ça. Et bon, et puis également, un débouché très important pour l'Est de la France, c'est le sel de déneigement.
Bien sûr.
Donc le sel gemme qui est concassé.
Oui, parce que en ce moment, vous avez eu assez chaud là depuis quelque temps, mais il arrive qu'il fasse aussi très froid en Lorraine.
Ah, oui.
Merci infiniment, Michel Remillon,
de
toutes ces belles précisions. Vous avez, si vous me passez ce petit jeu de mots, vous avez mis du sel dans cette émission.
Ah ben, je vous remercie. Ah voilà, votre service.
À tout moment, la vie d'un homme tranquille peut basculer. A History of Violence, une famille menacée, un homme rattrapé par son passé. Jusqu'où iriez-vous pour protéger les vôtres? Comment il fait pour être si doué pour tuer son prochain? A History of Violence, le film choc de David Cronenberg, en DVD, avec un repas.
Carglass répare, Carglass remplace.
Mon client, il avait un pare-brise fissuré. Il a eu le réflexe Carglass. Bien sûr, on lui a remplacé son pare-brise. Et pour lui faciliter ses formalités, on a pris directement contact avec son assurance.
Appelez le 0800 77 24 24. Comme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Carglass répare, Carglass remplace.
Casino.
Monsieur Pascoe, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre emplacement de camping étant déjà pris, j'ai dû vous mettre sur le parking. Mais pas de panique, je vous offre la deuxième semaine. Allez, bonnes vacances.
Chez Casino aussi, on vous offre un deuxième produit. Mais au moins, on est sûr que ça vous plaira. Jusqu'au 22 juillet, pendant les journées craquantes, dans les hypermarchés géants et supermarchés Casino, profitez de l'offre, deux produits Casino achetés, un remboursé en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Faquez aussi pour les produits Casino chez Petit Casino. Casino, sourire suivant.
Pendant quelques minutes encore en votre compagnie, Franck Ferrand, nous filons sur les belles routes de Lorraine.
Alors depuis Marsal et Dieuze, nous allons retraverser le parc de Lorraine vers le sud et reprendre le cours de notre route Nancy-Lunéville jusqu'à Baccarat. Baccarat, la cité du cristal par excellence. J'avais fait il y a quelques semaines une émission sur l'histoire du verre et nous avions bien sûr parlé de toute cette industrie lorraine et toute cette industrie verrière immémoriale. Hein, ça remonte ici même, ça remonte aux Romains à l'époque où la Lorraine était un véritable carrefour de voies romaines. Et ensuite, on peut dire que les cristalliers du 18 et surtout du 19e siècle ont pris le relais des gentilshommes verriers du 15e siècle en Lorraine. Ici, à Baccarat, la cristallerie elle a été fondée pour concurrencer les cristaux de Bohême, évidemment. On est à une époque dans le deuxième tiers du 18e siècle où le cristal de Bohême est en train d'envahir, littéralement, d'inonder le marché, et l'on cherche des industries locales françaises pour contrebattre un peu cet extraordinaire succès des cristaux bohémiens. Le fondateur de la manufacture, qui en l'occurrence était Monseigneur de Montmorency Laval, on est là en 1763, vous voyez, vers la fin du règne de Louis XV. Le fondateur était en fait, en prince de l'église qu'il était, propriétaire d'un grand nombre de bois dans les forêts vosgiennes. Et donc, il possédait beaucoup de bois de chauffe. Il fallait, tout ce bois qu'on exploitait, il fallait pouvoir l'utiliser, notamment le brûler. D'où l'idée de mettre sur pied des manufactures qui utiliseraient des fours. Alors on va d'abord fabriquer du verre, et puis à partir de 1822, avec l'adjonction de plomb, etc., je ne vais pas revenir dans toute cette technique, c'est la naissance du grand cristal de Baccarat. Alors dans l'ancien château, vous pouvez visiter aujourd'hui le musée du cristal, où sont exposées de nombreuses pièces soufflées, taillées dans la tradition du cru. Il faut dire qu'il n'y a pas qu'à Baccarat que l'on fabriquait du verre et du cristal. La manufacture de Saint-Louis est au moins aussi célèbre, et puis vous avez à Nancy celle de Dôme, bien entendu. D'une façon générale, on peut admettre que les arts appliqués ont trouvé un véritable lieu d'élection dans cette Lorraine du XVIIIe siècle. Je pense aux faïences de Lunéville, de Saint-Clément, de Niedervillers bien entendu, aux émaux de Longwy, etc. Bref, on fabriquait à peu près tout ce dont vous avez besoin pour ce qu'on appelle nous les arts de la table dans cette région. Quand vous êtes à Baccarat, sur l'autre rive de la Meurthe, le cristal s'est mué en vitrail, si je puis dire, puisque les verrières de l'église Saint-Rémy bien entendu de fabrication locale. L'église en question, elle a été détruite par les bombes, puis reconstruite. N'oubliez pas que nous sommes dans une région qui a tellement souffert au cours des différents conflits, que ce soit la guerre, les guerres anciennes, la guerre de 30 ans, puis la guerre de 1870 et les deux guerres mondiales. Alors, toujours vers le sud, nous on est sur la D435, on vient en fait là de quitter la Meurthe-et-Moselle, on entre dans le département des Vosges, et nous trouvons sur notre route la ville de Rambervillers, qui est l'ancienne place forte, l'ancienne ville forte des évêques de Metz. Nous parlerons de Metz longuement demain. Très jolie cité, arrosée par la Mortagne, et qui mérite une bonne halte pour visiter d'abord son hôtel de ville, Renaissance, son église, renaissante aussi, de style flamboyant, et puis, évidemment, pour évoquer l'un des épisodes majeurs de la campagne de 1870, cette défense de Rambervillers, qui d'ailleurs a fait l'objet sur place d'un monument, de Roger, qui est un espèce de monument comme ça, de grande sculpture, monument aux martyrs d'octobre 1870, parce que le 9 octobre 1870, après l'effondrement des armées françaises et la chute du Second Empire, alors que les Prussiens sont en train d'affluer vers l'ouest, eh bien, la garde nationale, les gardes nationaux de Rambervillers ont décidé de faire barrage. C'était un geste désespéré, mais en même temps, un de ces gestes héroïques qui ont, en quelque sorte, sauvé l'honneur en 1870. C'est ici que ça a eu lieu. Encore un petit peu plus au sud, et là, nous sommes maintenant à quelques kilomètres du château d'Arouet, ce qui signifie que notre boucle d'aujourd'hui est bouclée. Encore un peu plus au sud, vous trouvez Épinal, avec sa basilique Saint-Maurice, le quartier du Chapitre et ses belles maisons anciennes, avec surtout le musée de l'image et de l'imagerie. On parle toujours d'image d'Épinal, c'est une expression qui est entrée dans l'usage le plus courant, mais on en viendrait presque à oublier les images elles-mêmes et leur histoire. Il faut savoir qu'au début du 18e, en 1735, la famille Pellerin s'est installée à Épinal. Le père était imprimeur, graveur sur bois, et le fils, Jean-Charles Pellerin, a créé ces petites images simples et colorées qu'il a fait vendre par des colporteurs. C'est comme ça que c'est devenu un vrai succès. Alors, dans un premier temps, les images étaient uniques, et puis petit à petit, on en a fait plusieurs sur des planches. C'était un peu l'ancêtre de la bande dessinée, si vous voulez. Et peu à peu, ces images sont devenues de moins en moins candides, de plus en plus satiriques. Au départ, elles étaient religieuses, et puis, sous la Révolution, elles sont devenues patriotiques, avant de devenir carrément, sous l'Empire, un véritable instrument de propagande. C'est ce côté un peu naïf, un peu premier degré de l'époque qui a contribué à la réputation des images d'Épinal, cette réputation réductrice de conformisme en quelque sorte. C'est assez injuste. Si je vous parle tant d'Épinal et de ce musée, c'est parce que depuis le début du mois et jusqu'en janvier prochain est présentée au musée de l'image et de l'imagerie justement une expo très belle qui s'appelle L'amour des images et qui présente toutes sortes de petits chefs-d'œuvre du genre, que ce soit des chefs-d'œuvre français et étrangers, y compris des chefs-d'œuvre d'ailleurs de l'époque contemporaine. Voilà, nous allons nous en tenir là pour aujourd'hui, et si vous êtes sage comme une image, je reviendrai demain et nous poursuivrons nos pérégrinations à travers la Lorraine.
À demain, Franck Ferrand.